Kounvopek, on va se retrouver pour une deuxième partie de cet entretien. On a évoqué donc toute cette adolescence à New York, toutes ces rencontres extraordinaires, cet apprentissage avec Rosina Levin. Et puis, vous avez décidé à un moment que vous cherchiez une relation avec un maître ou un professeur qui soit, comment dire, elle était quoi, trop douce avec vous, ou vous cherchiez un rapport professoral plus difficile.
Madame Lévy, c'est un grand pédagogue. Il n'y a rien à reprocher. Mais c'était le problème avec moi-même que je n'arrivais pas à résoudre. Et j'avais besoin de quelqu'un qui était beaucoup plus fort, agressif même, pour faire sortir. Et j'ai trouvé chez Ilona Graboche, oui, la première rencontre, ou bien j'ai assisté le premier masterclass, et c'était un pianiste déjà connu, Joseph Kalkstein, qui jouait une œuvre de Schumann qui durait une demi-heure. Et après le premier commentaire de Ilona Graboche, c'était: comment tu osais de faire ça à moi?
Ah bon? Alors que c'est un merveilleux pianiste, c'était un merveilleux pianiste,
Et
Joseph
très bien
Kalkstein.
joué.
Oui.
Et là, vraiment massacré. Et lui, il comprenait pas. Et elle a expliqué 5 minutes, 10 minutes, je sais pas. Et après, il a dû rejouer et c'était totalement différent.
Oui.
Oui.
Mais il n'a pas été blessé par ses propos et ses
Oh,
commentaires.
il est costaud. Et il savait. Et puis lui, il la connaissait bien. Oui. Mais c'était bien sûr surpris. Oui.
Et au niveau du répertoire, ça a changé le répertoire que vous avez appris avec elle par rapport au répertoire que vous travaillez avec Rosina Levin?
Non, 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 pas du tout. Oui, et il faut que je raconte l'histoire, comment j'ai pu travailler avec Ilona Graboche, parce qu'il fallait séparer de Madame Levine, qui m'a enseigné, nourri comme ma propre mère.
Oui, parce que on rappelle, vos parents, à l'époque, vous les voyez, vous n'aviez pas l'occasion de les voir, c'est trop compliqué d'aller en Corée et pour eux de venir à New York.
Cette époque,
Oui.
pour retourner en Corée et
Oui.
revenir à New York, c'était impensable. Et puis, c'est pas simplement le voyage était long, mais coûteux. C'était pas possible pour
Oui.
un jeune comme moi.
Donc vous aviez cette mère de substitution, Rosina Levin.
Oui, et il fallait que je lui dise que je vais vous quitter, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. C'était trop dur pour Madame Levine. Et elle m'a dit: comment vous pouvez faire ça? Et te considérais comme mon propre fils. Et puis elle a réfléchi. Ça, c'est une grande dame. Elle a réfléchi. Elle m'a dit: sûrement, tu as quelque chose à apprendre chez Ilona Graboche, mais il y a encore des choses à apprendre chez moi, avec moi. Demain, Madame Graboche, elle accepte de partager le son avec moi, que je continue d'enseigner. Alors, je me suis dépêché d'aller voir Madame Graboche. Et c'est ce qu'elle a dit à Madame Levine. Et Ilona Graboche m'a répondu: oh, je suis tellement soulagée, je ne voulais pas la blesser. Je suis tellement content. Alors je suis revenu à Madame Levine. Ah, c'est ce que disait Madame Ilona Graboche. Et tous les deux, elles sont mis d'accord pour m'enseigner en même temps. Et deux professeurs qui se trouvent à Julia School, ça
Ça
n'a
n'arrive
jamais
jamais.
arrivé. Oui.
Et donc ça a été accepté.
Oui.
Et pour vous, c'était pas trop difficile justement d'avoir deux professeurs comme
non,
ça. C'était
non.
très complémentaire en fait.
Non, non, parce que vraiment tous les deux essayaient de m'aider. Oui. Ça s'est très bien passé.
Oui, mais en même temps, ça vous obligeait à travailler tout le temps, énormément aussi. Avoir deux professeurs aussi exigeants.
Oui, mais même répertoire. Et c'est ce qui était intéressant. Elle se téléphonait pour discuter mon jeu.
Et alors justement, au niveau de la construction du répertoire, vous, rapidement, parce que quand on voit la richesse de votre répertoire, enfin, vous avez enregistré les sonates de Beethoven, vous avez enregistré énormément de musique française, Forêt, Ravel, et puis vous avez enregistré la musique de Chopin pour piano et orchestre, et du Schumann, enfin, c'est, à l'époque, ça s'est construit comment ce répertoire? Vous aviez des affinités particulières avec certains répertoires?
J'ai toujours la curiosité. Et puis, quand je prends un compositeur, je ne voulais pas juste jouer, je ne sais pas, le Fantaisie de Schumann, Sonate Liszt, 12e de la Rhapsodie. Je voulais tout connaître. Alors, Rhapsodie hongroise, il y a Maria Dalloc, il y a d'autres versions. Étude transcendant, il y a 4 versions différentes. Tout ça, ça me passionne. Ouais.
Et là, hors micro, vous me disiez que vous travaillez en ce moment les concertos de Mozart.
Oui, c'est un grand défi. Comment jouer Mozart ? Après tant d'années.
On a l'impression que c'est quand même un des compositeurs les plus difficiles, enfin qui pose le plus de problèmes aux interprètes, Mozart.
Oui. Vous savez, il y a des interprètes qui sont connus pour Mozart et qui ils ont donné une merveilleuse version de concerto, de sonate. Mais le meilleur Mozart que j'ai jamais entendu, c'était une candidate au concours Tchaïkovski. Il était autrichien, je crois. Oui. Il jouait une sonate Mozart et c'était parfait. La sonorité qui dépassait pas, je sais pas, mettre piano au maximum, mettre forte, avec une telle sonorité naturelle, les phrases, les chants, c'était parfait. Peut-être c'était la seule fois que j'ai entendu quelque chose. Je me suis dit, mais ça devait être comme ça.
Une sorte de Mozart idéal pour vous
Je cherche toujours, d'abord, la sonorité pour Mozart. On entend trop claquant, trop digital, trop sec, trop classique. C'est pas un peu par quelque chose qui n'est pas naturel. La musique de Mozart, je crois que c'est la musique parmi les partitions classiques, je crois que c'est plus naturel. Je dirais presque le plus épanoui dans la période classique.
Mais vous écoutez ces opéras avant de jouer ces sonates ou...
Il y a beaucoup de l'opéra dans ces musiques instrumentales, bien sûr. Et je crois les notes... Il Vous savez, les notes devraient sonner un peu comme chanteur quand il chante avec les paroles. Bien sûr, dans la musique instrumentale, il n'y a pas de paroles, mais ça devrait communiquer comme ça.
Vous allez d'ailleurs jouer avec un orchestre de jeunes à San Francisco le 23e concerto en la majeure de Mozart, avec le deuxième concerto de Chostakovitch pour piano et orchestre. Ce concerto en la majeure, quand même ils sont tous géniaux, mais qui est un des plus extraordinaires de Mozart. Il y a ce fameux mouvement lent. Quand on l'écoute, on se dit il ne peut pas y avoir de plus belle musique. En même temps, c'est tellement simple, ça touche tellement. On ne sait pas à quoi c'est dû, la manière dont on est bouleversé quand on écoute cette musique.
Souvent, les mouvements lents de concerto de Mozart, ils restent dans le même ton, même accord, et ils savourent. Ah. Et il y a un mouvement antérieur d'une harmonie, et c'est pas, c'est un mystère. Mozart, c'est un mystère, oui.
Mais quand nous, on écoute cette musique, on est bouleversé. Mais vous, quand vous l'interprétez, vous devez faire en sorte que nous, on soit très émus. Mais vous, quelle est la difficulté, justement, d'interpréter une musique si bouleversante ?
C'est Ravel qui disait, pour décrire un rêve, il faut être très réveillé. C'est pareil. Pour jouer Mozart, il faut bien construire. Tout était calculé, tout était pensé, tout était. Et puis, au moment de l'exécution, il faut oublier tout ça, et puis il faut que ce soit le plus naturel possible.
Vous allez jouer avec un orchestre de jeunes, vous adorez jouer avec des jeunes, transmettre.
Oui, parce que ils sont encore innocents, ils ont encore la possibilité d'être innocents.
Oui, mais vous, vous appartenez justement à une génération qui a vécu, on parlait entre trois continents, et puis qui a vécu des choses dramatiques. Vous êtes né, puis il y a eu la guerre de Corée, et puis vous avez vécu dans une Corée en pleine reconstruction. C'était très, très difficile.
C'était
puis après,
avant la reconstruction.
Oui, c'est ça. Et vous vous êtes retrouvé après aux États-Unis. Vous appartenez quand même à une génération, et puis à une catégorie, entre guillemets, d'artistes qui ont vécu dans plusieurs pays, qui ont un itinéraire. Mais, et puis on parlait de Rosina Levin, et puis tous ces musiciens qui étaient à New York à ce moment-là, qui avaient traversé soit la barbarie nazie, ou justement le totalitarisme communiste. Et vous, maintenant, vous vous retrouvez avec des jeunes qui, heureusement pour eux, n'ont pas vécu toutes ces tragédies. Et en même temps, c'est terrible à dire, mais tous ces événements ont nourri aussi votre musicalité.
Oui, quelle richesse pour nous.
Oui, c'est ça, vous avez vécu des choses épouvantables. En même temps, ça a nourri votre vie oui. d'artiste.
Ça, c'est sûr.
Oui. Et donc, heureusement pour ces jeunes avec lesquels vous vous retrouvez, ils n'ont pas, heureusement pour eux, vécu tout ça. Mais en même temps, musicalement, on a l'impression que ça uniformise aussi, qu'ils ont pas, ils ont moins de richesse à exprimer. On ne peut pas leur souhaiter d'avoir vécu des tragédies. Mais en même temps, voilà, tous ces musiciens auxquels on fait référence, ça les a nourris aussi.
Je crois l'artiste naît. Sont des gens qui cherchent et qui trouvent leur chemin. Ça peut être continent, ça peut être professeur, ça peut être peut-être un job qui ne pensait pas, ça peut être une rencontre, oui. Mais qui cherchent et qui trouvent, qui savent se nourrir et il trouvera son chemin, mais le goût de recherche, ça peut-être on peut l'enseigner.
Oui, mais par exemple, votre père, quand il vous a offert la balade de forêt, ça a été très compliqué à l'époque, dans la Corée des années 50-60, pour commander cette balade. Enfin, c'était tout un itinéraire, une recherche. Maintenant, enfin, c'est 10 fois plus facile d'avoir accès à tout. Et en même temps, ça donne moins de prix aux choses qu'on acquiert. Enfin, je veux pas tomber dans le cliché, passéiste, mais.
Oui, quand on clique Internet et tu as la partition tout de suite dans iPad, et pour moi c'est toujours aller au magasin, feuilleter moi-même les partitions poussières et trouver les trésors. Si on se souvient, il y a longtemps, quai Saint-Michel, il y avait Pugno. Non, non, c'était une autre. Je
Je me
crois,
souviens plus du
Adioso.
nom. Oui, sur le quai Saint-Michel,
Oui.
ouais.
Alors, je cherchais le première version de quatrième concerto de Rachmaninov. Je voulais absolument voir cette version et je trouvais nulle part. Alors j'ai parlé avec ce monsieur, je crois Christian, je crois, il s'appelait. Je lui ai dit, vraiment, j'aimerais bien voir ces partitions. Il a dit, oh, c'est difficile de trouver. Mais je garde les partitions un peu précieuses derrière boutique. Peut-être tu peux fouiller parmi ces partitions. Et je trouve la partition de quatrième concerto que Rachmaninov a publiée quand il était à Paris. Et après, je veux dire, le premier concerto aussi, j'aimerais tellement voir la première version. Ça, c'est encore très difficile. Mais il y a une boîte, peut-être. Tu peux regarder, je les amène à chez moi. Bon, on va voir. Et je trouve la première version de premier concerto de Rachmaninov. Et tout ça, laps de demi-heure. Et j'étais le plus heureux des hommes. Maintenant, on peut
Oui, on
avoir un
tape
peu.
sur Internet et
Oui.
puis on tape première version du premier concerto.
Il n'y a pas de ces exaltations que j'ai senties.
Et tous ces jeunes que vous rencontrez, avec lesquels vous faites des masterclass, auxquels vous enseignez, vous repérez tout de suite un vrai musicien quand un jeune commence à jouer devant vous?
Oh.
C'est.
Vous savez, tout de suite, le son est différent.
On voit des gens qui ont des choses à dire.
Oui. Déjà, le son parle. Les autres qui tapent, qui jouent les notes. Mais ça communique pas. Oui.
Mais vous, en même temps, quand on vous a découvert, vous aviez une technique complètement hasardeuse, vous le disiez, enfin que vous avez dû refaire totalement. Il y a des gens qui ont su repérer en vous un artiste, alors que si ça se trouve, vous-même, vous ignoriez que vous en étiez un, puisque vous avez décidé de devenir pianiste vraiment à 24-25 ans.
Pour opérer une talent, je crois que c'est pas difficile. C'est après qui est difficile. Là aussi, c'est le travail de professeur, mais plus que ça, c'est le travail de soi-même. Est-ce que les jeunes sont prêts à le faire, aller loin pour trouver la réponse? L'autre jour, un jeune est venu et regardait toutes mes partitions. Et puis, est-ce que vous pouvez me prêter votre partition? Je voulais regarder. Et bien sûr, j'aime pas trop ma partition par
Oui.
ici. Ça, c'est une chose, mais ce n'était pas ça. Je lui ai dit, si tu regardes, tu trouves une réponse, ce sera, tu copies ce que j'ai fait. Il faut que tu trouves ta réponse toi-même. Et après, tu peux comparer ou bien discuter avec moi. Alors, je n'ai pas donné la permission.
Mais
Et il
vous,
a compris, oui.
oui, mais vous, quand vous avez compris que vous seriez, que ce serait votre métier, votre vie, ça s'est passé comment? Quel
Ça
a
s'est
été le
passé
déclic?
comme ça. Vous savez, quand on est jeune, on ne sait pas trop quoi faire avec sa vie. C'est une question, décision tellement importante. On est souvent complètement perdu. Et je crois. J'ai décidé d'être pianiste quand j'ai su qu'il n'y avait pas d'autre alternative. J'avais pas de choix. C'est qu'est-ce que je peux apporter dans le monde? Rien. Peut-être musique, peut-être piano. Oui. Et ça a devenu tout.
Et là,
Oui.
ça a basculé. Bon, on est quand même très heureux que vous ayez pris cette décision, Kounvopeck. Il y a un disque, un de vos derniers disques que j'adorerais évoquer avec vous, consacré à Schumann, un double album, avec à la fois des œuvres très
Connu.
célèbres, comme les scènes d'enfants, les scènes de la forêt, et puis des œuvres beaucoup plus rares. Il s'ouvre par les variations à Beg, qui est une œuvre absolument merveilleuse,
Premier.
l'opus 1 de Schumann. Il y a un disque très célèbre de Clara Askill de cette œuvre. C'est un disque que vous aviez écouté.
Oui, j'ai écouté et je très vite.
Ça ne correspond pas à votre
Non, c'est
vision
un jeu
de.
merveilleux. Mais à mon goût, un peu trop vite.
Et donc, ce disque où on trouve des œuvres beaucoup plus rares, comme Les Chants de l'Aube,
J'adore.
oui, c'est une des œuvres
Ouais.
tardives
Ouais.
de Schumann, très mystérieuses.
C'est plus beau, je trouve plus beau. Chant de l'aube, variation, Geist
Alors,
variation.
justement, ces fameuses Geister Variations, qui sont des œuvres qui n'avaient pas été éditées du vivant de Schumann, où il reprend un thème de son concerto pour violon, où même sa femme Clara était très hostile à cette œuvre. C'est une œuvre qui est de plus en plus
Oui.
jouée et qui est complètement extraordinaire. Et pourquoi vous avez choisi de l'aborder, cette œuvre?
Je savais qu'il y avait quelque chose de très rare dedans. Et je ne savais pas de quoi il s'agit, mais il fallait que je travaille. Et pendant longtemps, je n'avais aucune idée, vraiment. Et il fallait du temps. Et petit à petit, combien de temps j'ai dû changer pour arriver à quelque chose cohérent. Mais jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûr, j'étais pas sûr. Et même après graver, ça a continué à évoluer. C'est très, très personnel. Et puisque c'est tellement personnel, c'est une. Tu vois, tous les grands œuvres, il y a quelque chose de confessionnel. Et tout, ça, c'est totalement tout ce qu'il a vécu, ce qu'il est. Et puis, la fin de Geist Variation, moi, je vois un peu comme ça la vie de Schumann tourmentée s'arrête. Il accepte que c'est la fin. Et puis après, il n'y a rien, il y a silence. Et c'est très dramatique de pouvoir exprimer quelque chose comme ça sur scène. Et voilà.
Vous parliez justement de la difficulté à appréhender cette œuvre qui vous a donné beaucoup de mal, justement, à apprendre dans sa construction qui est si étonnante. Il y a des
Parce
œuvres que.
qu'il
Oui.
fallait creuser au fond de son âme. Oui.
Il y a des œuvres que vous adorez comme ça en tant que mélomane, et puis vous avez essayé de les travailler, puis. Vous avez renoncé, elle vous échappe, ou alors à force de creuser, vous êtes toujours arrivé finalement à les jouer.
Pas toujours on réussit. Il y a beaucoup d'œuvres. Même Sonate Beethoven, le travail, et puis c'est pas le moment. Il fallait attendre. Oui.
Vous revenez, vous laissez la partition de côté, vous revenez à ce moment-là, des mois
Oui,
ou
c'est
des
un
années
peu
après?
comme les nocturnes de Chopin. J'ai laissé pendant longtemps, et puis un jour j'ai ouvert. Et puis je me suis dit, mais c'est comme ça, cette œuvre. Et puis j'ai commencé à travailler. Là, je voulais travailler les quatre ballades de Brahms, par exemple. J'ai pris plusieurs fois, et chaque fois je me suis dit, je suis pas prêt, je comprends pas comment les jouer. Maintenant, je crois que je peux aborder, oui. Et puis ça ira bien avec Mozart, les pièces de Mozart, oui.
Oui, ben on a hâte de vous écouter dans ce répertoire. C'est vrai que vous avez abordé tellement de répertoires et il y en a et encore. De toute façon, c'est infini,
Vous
Kounevropex.
savez, toutes ces partitions, combien % j'ai abordé, oui.
Oui, là, vous faites face à un mur de partitions chez vous, Kounevropex. Effectivement,
Vous
c'est.
savez, c'est qu'à cela, tout est l'espagnol pour choisir Goyescas. Non, j'ai choisi Goyescas, mais je voulais voir
Granados.
d'autres œuvres en espagnol en même temps. Et Jonathan, oui.
En tout cas, entre ce que vous avez joué, ce que vous allez jouer, tous ces continents à explorer, c'est un bonheur pour nous, Kounevropex, de vous écouter dans tous ces répertoires. Et puis, on pourrait encore parler des heures de tout votre itinéraire, mais. Il est l'heure de se séparer. En tout cas, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci.